Les glaneurs. Les glaneurs. Les glaneurs.
Alors oui, je suis venu avec un livre qui est une réédition, qui est paru chez un très très bon éditeur qui s'appelle Le Bruit du Temps. C'est une réédition d'un roman de Inger Christensen qui s'appelle La Chambre Peinte, un récit de Mantoue. Ça, c'est un sous-titre dont on peut un peu se demander pour ce qu'il vient faire là, puisque le titre en danois était simplement La Chambre Peinte, mais en danois, bien entendu. C'est un livre qui est traduit par Carl et Janine Poulsen. Alors, Inger Christensen, pour la situer très très brièvement, elle est unanimement reconnue comme le plus grand écrivain danois du XXe siècle. C'est peut-être même un des plus grands écrivains danois de tous les temps. Voilà, hein. Ça on impose. Alors, eh bien, comme son titre l'indique, le livre tourne autour d'une œuvre fameuse de Andrea Mantegna qui s'appelle La Chambre peinte ou La Chambre des époux. Alors, plutôt, avant de parler du livre en tant que tel, ben, parlons un peu de cette œuvre. C'est une œuvre que Andrea Mantegna a peint dans le Castello di San Giorgio, dans la ville de Mantoue, entre 1465 et 1474. C'est une commande de Ludovico III de Gonzague, qui était le grand prince régnant de Mantoue à l'époque au XVe siècle. Et cette commande, eh bien, qu'était-il censé faire, Andrea Mantegna? Eh bien, peindre une pièce close qui était assez petite, qui faisait 25 mètres carrés, donc c'est relativement petit, très peu éclairée, avec une porte et une ou deux fenêtres, je ne me souviens plus, et dont tous les murs devaient être ornés. Alors, ornés par quoi? Eh bien, ornés par une représentation de la famille de Gonzague, qui était répartie sur deux pans de murs différents. Le premier pan, on retrouvait la famille de Gonzague en cour, donc la plus grande partie des membres de la famille, mais en cour, et sur la deuxième partie, une représentation de la famille, d'une partie de la famille du moins, sur un fond de Rome idéalisé. Ça, c'est pour le contexte. Alors, le livre de Inger Christensen n'est pas du tout une analyse esthétique, classique du moins, de cette œuvre-là, mais elle prend ça comme ancrage d'abord. Alors, c'est un triptyque, donc il y a trois parties, chacune bien distincte de l'autre. Dans la première, c'est une forme de journal qui est censée être tenue par Massilio Andreasi, qui est le secrétaire de Ludovico III de Gonzague, qui est également le confident de Mantegna, et qu'on va suivre entre l'année 1454 jusqu'à l'année 1506, c'est-à-dire avant la réalisation de la peinture, jusque bien après la réalisation de celle-ci. Alors, c'est un journal donc, de l'ordre de l'intime, bien entendu, dans lequel ben, il va de temps en temps remplir les journées quand elles semblent lui être intéressantes. D'autres, on aura des pans de temps assez étendus où il n'inscrira rien. Ce qu'on va suivre là, ben, c'est l'évolution de ses relations avec Mantegna, au fur et à mesure aussi que celui-ci réalise la peinture, mais aussi l'évolution de sa relation amoureuse avec celle dont il est amoureux, qu'il va finalement se marier avec Mantegna. Dans la deuxième partie, là, on n'est plus du tout dans un journal, c'est plus du tout un homme, mais c'est une femme qui raconte au passé, on va dire, une partie des secrets de la famille de Gonzague, au travers notamment du personnage de la fille de Ludovico III, la fille qui s'appelait Nana, et qui a la particularité d'être naine. Farfalla, cette femme qui raconte l'histoire, est elle-même la maîtresse de Ludovico III. Dans la troisième partie, alors là, c'est plus une femme, c'est plus un homme, c'est un enfant qui s'appelle Bernardino et qui est l'enfant de Mantegna, qui va nous raconter de manière très très courte, c'est la partie la plus courte, la fin, le contexte plutôt de la fin de la peinture de Mantegna, sous forme onirique, c'est-à-dire qu'il va nous raconter un rêve qu'il serait censé avoir fait. Alors, on a trois parties différentes, trois biais différents, trois personnages différents. Mais à chaque fois, ce qui va se passer, et c'est ça le miracle finalement, le premier miracle que l'on rencontre à la lecture de ce roman d'Inger Christensen, c'est que la synthèse de tout ça, elle se fait dans le lecteur. C'est chaque trois lectures différentes, mais qui se mettent dans le lecteur. Et trois lectures totalement différentes, puisqu'on a des personnages qui sont totalement différents. Donc, on a, premier, c'est un homme qui est un secrétaire, qui a une relation finalement professionnelle à ce qui l'entoure et à l'histoire d'Inger Christensen. Deuxième, c'est une femme, l'amante de Ludovico, donc une relation érotique, affective, sexuelle. Et le troisième, c'est un enfant donc, qui a une relation filiale avec le personnage principal, finalement, qui est Mantegna, qui fait la peinture. On a trois registres du discours différents ici. On a un journal, donc une relation à l'intime, directe, sans prise d'analyse, finalement. Donc, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de retour sur les événements qui lui arrivent. On a ensuite de ça un récit au passé, où là, c'est tout le contraire. On a une forme d'omniscience par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, le troisième, eh bien, on a un enfant, c'est-à-dire quelque chose puéril, naïf et onirique. Donc trois registres du discours qui sont formellement complètement différents avec trois personnages différents qui s'unifient dans le lecteur. Alors ça peut sembler très très formaliste ce que je dis là, et quand je parle de forme avec Inger Christensen, il y a moyen de parler des heures et des heures de ces formes tellement la logique, les mathématiques, etc. jouent un jeu dans le cadre de la lecture d'Inger Christensen. Mais on ne le lit pas comme ça. On le lit... On est en prise directe avec quelque chose qui émeut quand on lit Inger Christensen, qui bouleverse. Et s'il y a une chose qui bouleverse dans tout ça, c'est que c'est une des premières qui renverse les perspectives à la lecture d'une peinture. Quand on regarde une peinture, et quand on regarde cette peinture-là, ce qu'on va voir, c'est que les personnages qui nous racontent ces histoires en triptyque, eh bien, ils existent dans l'œuvre. On les voit dans l'œuvre. Ils sont représentés dans l'œuvre de Mantegna. Et non seulement ils sont représentés, mais en plus de ça, par certains biais du moins, il nous regarde. Il regarde le spectateur. Et donc, elle arrive à donner une voix, à donner un regard, un autre regard, aux personnes qui regardent. Et donc, on a le sentiment, et c'est vraiment un sentiment vertigineux qui prend et bouleversant, non pas de regarder l'œuvre, mais d'être regardé par elle. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Personnellement, moi, c'est un des livres qui m'est le plus fasciné dans mon expérience de lecteur.
Vous l'avez visitée, la Chambre des époux à Montaut ?
Eh bien non, parce qu'on ne peut plus en fait la visiter. Elle a été depuis... elle est interdite, sauf à quelques périodes, je pense, extrêmement rares, parce que la région...
Il y a eu un tremblement de terre.
Donc, alors, le château a subi, le Castello di San Giorgio a subi des dommages. La chambre en elle-même, pas, j'ai pu lire, mais malgré tout, elle n'est plus visitable comme auparavant.
Mais ma question, en fait, c'était Le livre peut prendre tout son sens, même si on n'a pas vécu visuellement, je dirais, la découverte de cette chambre des époux.
Complètement. Alors, elle prend tout son sens. Cependant, et j'ai déjà eu quelques autres lecteurs qui m'ont dit la même chose, quand on est dans le livre, on va vouloir cependant vérifier certaines choses. Si les gens s'y retrouvent, quel est le rapport tout simplement à la peinture. Et donc, on va aller googler sur Internet, on va aller voir, ouvrir des livres peut-être, Dieu le sait. Ça prend une saveur effectivement différente. Mais... Il est tout à fait, il forme un ensemble à lui tout seul. Mais c'est clair que ces allers-retours vers l'œuvre complètent magnifiquement l'œuvre de Inger Christensen, c'est sûr.
Laurent de Sutter ?
Oui, il y a juste une petite remarque peut-être que j'aimerais rajouter à ce que vient de dire Emmanuel Roquette, qui concerne le travail de cet éditeur, Le Bruit du Temps, qui est un éditeur absolument magnifique et qui fait quelque chose, je trouve, d'assez unique dans le paysage éditorial contemporain. C'est-à-dire que c'est un éditeur récent, jeune, qui a construit au fond son catalogue sur le fait que l'édition contemporaine n'avait pas de mémoire. C'est-à-dire sur le fait que nous, les grands éditeurs, possesseurs de droits sur des chefs-d'œuvre, etc., les ont abandonnés. Au fond, c'est un éditeur qui fait principalement de la réédition, et de la réédition de livres du début du XXe siècle. Ils ont réédité D.H. Lawrence, ils ont réédité des textes de Virginia Woolf, ils ont réédité, etc., etc. Et ce travail-là, qui est un travail d'archéologie d'une histoire qui est une histoire il y a 40 ans, 50 ans, parce qu'on parle de traduction, Virginia Woolf, évidemment, c'est plus ancien, mais on parle de traduction, c'est un travail qui est véritablement exceptionnel, et de parvenir à faire résonner dans le contemporain la nouveauté de textes qui ont été oubliés par d'autres éditeurs qui en possédaient les droits, je trouve que c'est vraiment un travail remarquable.
Tout à fait d'accord. Et par exemple, si je peux me permettre, par rapport à d'autres auteurs qui existent toujours, qui vivent toujours, eh bien, ils arrivent à sortir des textes auxquels ils donnent une visibilité, et donc une visibilité à l'auteur. Je pense notamment à Peter Nadas, par exemple, qui est un des plus grands auteurs contemporains, un auteur hongrois, dont quelques textes fondateurs et fondamentaux végètent chez d'autres éditeurs, eh bien, Le Bruit du Temps, effectivement, prend le pari de sortir quelques autres petits textes qui permettent de revenir avec un éclairage sur l'œuvre entière de l'auteur. Non, c'est un travail remarquable, Laurent a tout à fait raison.
Et si j'ai bien compris ce que vous disiez au début, Emmanuel Roquette, le bruit du temps vient de rééditer ce livre, mais aussi dans une nouvelle traduction.
Oui, c'est une nouvelle traduction. Alors, comme je le disais, je ne vois pas pourquoi il y a un sous-titre au livre alors que le titre en danois n'y fait pas référence. Je trouve ça un peu inutile. Sinon, la traduction, comme d'ailleurs les autres traductions, quand elles sont retravaillées chez cet éditeur, sont tout simplement parfaites, quoi. C'est toujours parfait. C'est toujours des travaux de spécialistes. À noter aussi que cet auteur, Inger Christensen, l'immense majorité de ses textes étaient indisponibles, sauf quelques textes en revue, et qu'un autre éditeur qui fait aussi un travail remarquable a décidé de reprendre une autre traduction d'un de ses textes fondamentaux qui s'appelle Alphabet. C'était sorti chez Ypsilon et c'est un allons-y carrément, soyons élogieux, c'est le moment. C'est peut-être un des plus grands poèmes du XXe siècle également.
Entre-temps, j'ai pris quelques renseignements, Emmanuel Roquette, juste pour signaler pour les auditeurs que ça intéresserait, qu'il y a moyen de visiter la chambre des époux à Mantoue. Ceci dit, donc, suite au tremblement de terre, effectivement, l'accès est très très limité, donc il y a vraiment des courtes périodes seulement où les visiteurs sont admis. Donc renseignez-vous si jamais vous voulez partir vérifier tout ce qu'on peut trouver dans ce livre de vos yeux. Le titre donc, La chambre peinte, un récit de Mantoue, l'auteur Inger Christensen, s'est paru donc aux éditions Le Bruit du Temps. Merci Emmanuel Roquette.
Avec plaisir.